Easy présente. Tu ne m'oublieras jamais, de Peter James. Lu par Arnaud Romain. À Dave Gaylor. Certaines scènes de ce roman ont pour toile de fond les attentats du 11 septembre 2001. Mes hommages les plus sincères aux victimes et à tous ceux qui y ont perdu un être cher. Chapitre 1. S'il avait su en se levant que 2 heures plus tard il serait mort, Ronnie Wilson aurait organisé sa journée quelque peu différemment. Pour commencer, il n'aurait sans doute pas pris la peine de se raser. Il n'aurait pas gâché de précieuses minutes à se mettre du gel dans les cheveux et à les chiffonner jusqu'à obtenir l'effet désiré. Il n'aurait pas passé tant de temps à astiquer ses chaussures, ni à faire et refaire le nœud de sa cravate en soie hors de prix jusqu'à ce qu'il soit parfait. Il n'aurait sûrement pas payé la somme exorbitante de $18, dépense qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre, pour faire nettoyer son costume en 1 heure. Cette innocence ne faisait pas de lui un bienheureux pour autant, car la joie était absente de son spectre émotionnel depuis si longtemps qu'il avait presque oublié le sens du mot « bienheureux ». Et ce, même lors de ses furtives secondes d'orgasme, les rares fois où Lorraine et lui faisaient encore l'amour. Ses couilles étaient devenues aussi insensibles que tout le reste. La situation était telle que depuis peu, quand les gens lui demandaient comment il allait, il répondait « ma vie est pourrie » en haussant les épaules. Et Lorraine ne savait plus où se mettre. Sa chambre d'hôtel aussi était pourrie, si petite que, même s'il se laissait tomber, il ne toucherait pas le sol. C'était la chambre la moins chère du W, mais le fait de descendre au W lui permettait de sauver les apparences. Dire qu'on séjourne à l'hôtel W de Manhattan, ça en jette, même si c'est dans le placard à balai. Ronnie savait qu'il devait faire un effort, passer en mode opérationnel, dégager des ondes plus positives. Les gens sont sensibles à ce que l'on dégage, en particulier quand on vient leur demander de l'argent. Personne ne prête aux losers, pas même un vieil ami. Du moins, pas la somme dont il avait besoin en ce moment, et pas le genre d'ami en question. Pour voir le temps qu'il faisait, il s'approcha de la fenêtre et se dévissa le cou de manière à distinguer une bande de ciel, tout en haut de la façade grise du bâtiment d'en face, de l'autre côté de la 39e rue. Il ne put s'empêcher de remarquer qu'il faisait beau, mais son humeur ne s'améliora pas pour autant. Il avait plutôt l'impression que les nuages avaient déserté l'azur infini pour se loger dans son cœur. Sa fausse montre Bulgarie lui indiqua qu'il était 7h43. Il l'avait achetée sur Internet pour 40 livres et la contrefaçon était insoupçonnable. Il avait depuis longtemps compris que les montres de luxe communiquaient un message important aux gens qu'il essayait d'impressionner. S'il avait pris soin d'acquérir l'une des meilleures montres du monde, c'est qu'il prendrait le plus grand soin de l'argent qu'ils étaient sur le point de lui confier. Les apparences ne sont pas tout, mais il ne faut jamais les négliger. Donc, 7h43. Let's go! Il attrapa son attaché-case Louis Vuitton, faux lui aussi, le posa au-dessus de son sac à roulettes et sortit de la chambre en tirant son bagage derrière lui. En sortant de l'ascenseur au rez-de-chaussée, il passa devant la réception tête baissée. Il vivait à crédit, n'avait pas assez pour régler son séjour, mais il s'en soucierait plus tard. Il n'arrivait plus à rembourser le prêt de sa BMW, la superbe décapotable bleue que Lorraine adorait conduire pour narguer ses copines, et était sur le point de devoir la rendre. Quant aux créanciers, ils étaient à 2 doigts de saisir sa maison. Son rendez-vous d'aujourd'hui, se dit-il, désabusé, était sa dernière chance, une promesse qu'il allait réactiver, une promesse vieille de 10 ans. Il espérait juste qu'elle n'avait pas été oubliée. Assis dans le métro, son sac entre les genoux, Ronnie était conscient que quelque chose dans sa vie avait mal tourné, mais il était incapable de dire quoi. La plupart de ses anciens camarades de classe avaient réussi dans leur domaine, tandis que lui, dans leur ombre, plongeait dans le désespoir. Ils étaient devenus conseillers financiers, promoteurs immobiliers, comptables ou avocats. Ils avaient une maison tape à l'œil, une femme trophée, et des gosses trop mignons. Et lui, il avait quoi? Lorraine, la névrosée qui dépensait l'argent qu'il n'avait pas dans d'interminables soins de beauté dont elle n'avait pas besoin, pour être tout à fait honnête, dans des fringues de créateur qu'il ne pouvait vraiment pas s'offrir, et en réglant la note de déjeuner ridiculement chère à base de feuilles de laitue et d'eau minérale, qu'elle prenait avec ses amis anorexiques, beaucoup plus riches qu'elle, dans le restaurant Hypissime de la semaine. Et malgré un traitement hors de prix pour booster sa fécondité, elle n'était toujours pas capable de pondre l'enfant dont il rêvait jour et nuit. La seule dépense qu'il avait approuvée, c'était pour ses nouveaux seins. Mais bien sûr, Ronnie était trop fier pour avouer à Lorraine dans quel pétrin il se trouvait. Et, indécrottable optimiste, il pensait toujours que la solution était à portée de main. Tel un caméléon, il se fondait dans le paysage. Il avait été concessionnaire de voitures d'occasion, antiquaire, puis agent immobilier, et à chaque fois, il s'était débrouillé à merveille et avait su embobiner les clients, sans avoir le sens des affaires, malheureusement. Quand son agence avait coulé, il s'était improvisé promoteur immobilier, des plus convaincants en jean et blazer. Puis, quand les urbanistes avaient refusé de valider son projet, les banques avaient saisi son lotissement de 20 maisons à peine sorties de terre, alors il s'était improvisé conseiller financier pour les riches. Et une nouvelle fois, cela s'était soldé par un échec. Dans le cas présent, il espérait convaincre son vieil ami Donald Hatcook qu'il savait comment faire de l'argent avec la prochaine poule aux œufs d'or, le biocarburant. Selon la rumeur, Donald avait gagné plus d'un milliard en produits dérivés, quels qu'ils soient, et n'avait perdu que 200 000 quand il avait investi dans l'agence immobilière de Ronnie qui avait fait faillite 10 ans plus tôt. Il avait fait semblant de croire aux raisons que son ami lui avait données pour justifier le dépôt de bilan et lui avait promis de l'aider de nouveau un jour. Bien sûr, Bill Gates et consorts cherchaient des débouchés sur le marché du biocarburant, le nouveau carburant écologique, et disposaient des fonds pour se lancer. Mais Ronnie avait la certitude d'avoir découvert une niche. Tout ce qu'il devait faire ce matin, c'était convaincre Donald. Son ami était futé. Il verrait l'opportunité, il comprendrait. Dans le jargon, c'était un plan béton. Plus le métro approchait du sud de Manhattan, plus Ronnie sentait la confiance monter en lui. Plus il répétait dans sa tête la démonstration qu'il allait faire à Donald, plus il avait l'impression de devenir Gordon Gekko, le personnage incarné par Michael Douglas dans Wall Street. Physiquement, il était parfait pour le rôle. Tout comme la douzaine de traders tirés à quatre épingles qui étaient ballottés dans le même wagon que lui. S'ils avaient ne serait-ce que la moitié de ses soucis, ils cachaient bien leur jeu. Ils dégageaient une confiance inébranlable. Et s'ils avaient pris la peine de lever les yeux vers lui, ils auraient vu un homme élancé, bien bâti, cheveux gominés, tout aussi confiant qu'eux. On dit que ceux qui n'ont pas réussi à 40 ans ne réussiront jamais. Dans 3 semaines, il en aurait 43. Et dans 3 secondes, il serait à sa station, Chambers Street. Il avait envie de marcher un peu. Une fois à l'air libre, il constata que la météo était clémente. Il se repéra à partir de la carte que le concierge de l'hôtel lui avait donnée la veille au soir, puis il jeta un œil à sa montre. 8h10. Il avait appris par expérience qu'à New York, il fallait compter 15 bonnes minutes entre l'entrée du bâtiment et le bureau de la personne. Et le réceptionniste lui avait expliqué qu'il y avait 5 minutes de marche entre Chambers Street et l'adresse de Donald, s'il ne se perdait pas. Un panneau lui indiqua qu'il se trouvait désormais sur Wall Street. Il passa devant Jamha Juice, une échoppe qui vendait toutes sortes de jus, devant une boutique Tailleur et Retouche, puis entra dans le café Downtown Deli, plein à craquer. Ça sentait bon le café et les œufs au plat. Il prit place sur un tabouret de bar, recouvert de cuir rouge, et commanda une orange pressée, un café au lait, des œufs brouillés avec du bacon et du pain complet. En attendant d'être servi, il feuilleta une nouvelle fois le dossier qu'il avait préparé pour convaincre Donald. Puis, consultant sa montre, il essaya de calculer le décalage horaire entre New York et Brighton. En Angleterre, il était 5 heures de plus. Lorraine devait être en train de déjeuner. Il l'appela sur son portable pour lui dire qu'il l'aimait. Elle lui souhaita bonne chance pour son rendez-vous. Pas compliqué de plaire aux femmes. De la dentelle de temps en temps, quelques citations poétiques et un ou deux bijoux inabordables, mais pas trop souvent. 20 minutes plus tard, au moment où il réglait sa note, il entendit une forte détonation, au loin. Un gars assis près de lui s'écria « Bordel, c'était quoi ce truc ?» Ronnie ramassa la monnaie, laissa un généreux pourboire et sortit pour se rendre chez Donald Hadcook, qui, selon l'adresse qu'il avait reçue par mail, travaillait au 87e étage de la tour sud du World Trade Center. Il était 8h47. On était le mardi 11 septembre 2001.